Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonsoir, il est 19h et comme un mardi sur deux, vous retrouvez l'équipe des Glaneuses. Donc bonsoir Marion.
Bonsoir.
Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Et nous retrouvons aussi nos invités, à savoir Bastien, Aloïs et Kylian. Donc, bonsoir à vous trois. Donc vous faites tous partie du groupe Parcours 37 qui a pour but de regrouper les traceurs de la région et d'organiser des horaires et lieux d'entraînement. Donc on reviendra vers vous dans une deuxième partie d'émission pour comprendre un peu mieux en quoi le parcours consiste, s'il en existe plusieurs sortes, et puis vos motivations. En somme, on fera le tour du sujet. Alors, juste avant que je ne fasse la présentation du parcours, il faut que vous sachiez donc qu'on n'y connaît rien toutes les trois, que toutes nos sources viennent d'Internet. Donc si jamais on dit une connerie, surtout vous n'hésitez vraiment pas à nous reprendre. Pas de souci.
Pas de souci.
Ok. Donc le parcours est par définition l'art du déplacement, une activité physique qui vise à un déplacement libre et efficace, en particulier en dehors des chemins préétablis du style route. Donc le traceur franchit des obstacles sans assistance de manière fluide, rapide, sûre et efficace. Donc technique encore assez peu répandue puisqu'elle n'existe que depuis le début des années 1990. On assiste cependant depuis quelques années à une popularisation de ce mouvement, en témoigne les nombreuses vidéos que l'on peut trouver sur Internet, ou même les déclinaisons du parcours en film, ou même en jeu vidéo, plus récemment avec la licence Assassin's Creed d'Ubisoft. Et puisque le mouvement commence à prendre de l'essor, il faut donc qu'on comprenne aussi pourquoi. Donc, on rejoint Juliette, qui va nous faire un petit historique. Ça va, Juliette ?
Moi, ça va très bien, oui.
Et bien, parfait.
J'ai peur de dire des bêtises, là.
Tu vas nous parler de quoi, un peu plus...
Je vais retracer un peu l'histoire de cette discipline, donc des arts du déplacement jusqu'au free running, en espérant que je ne dirais pas trop de d'âneries, on va dire ça comme ça à la radio.
Ouais.
Voilà, donc les arts du déplacement à la base, ou ADD, ont été inventés, comme tu le disais, dans les années 90 par un certain David Bell. Apparemment, c'est de son père qu'il tient sa passion et sa philosophie. Raymond Bell, donc son papa, a fait l'Indochine et il décide de là-bas de se construire une armure physique et mentale par un entraînement acharné. En rentrant en France, il s'engage chez les pompiers et est remarqué par ses performances. David Bell, son fils, décide alors dans sa banlieue parisienne de s'amuser à des jeux d'agilité et d'acrobatie avec ses amis. L'idée de base est assez simple, se déplacer librement en milieu urbain. Lui et 8 d'entre eux prennent ses entraînements très au sérieux et forment en 1997 les désormais célèbres Yamakasi. Il s'agit donc de David Bell, Sébastien Foucan, Shaun Beldin, Williams Bell, Yann Notra, Guylain Ngouba Bayeke, Malik Diouf, Charles Perrière et Laurent Piemontesi. Leur groupe décide lui aussi de participer à un événement organisé par les pompiers de Paris en 1997, et c'est alors que débute la médiatisation. En effet, ils sont repérés par la télévision, mais aussi par le monde du spectacle, puisqu'ils participent en 1998 par exemple à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et au cinéma, ils font une apparition dans Taxi 2 en 2000 et dans le film qui leur est dédié, Yamakasi, en 2001. Cependant, David Bell et Sébastien Foucan préfèrent s'éloigner du groupe initial et en rejoignent un autre, les Traceurs. Ce groupe développe la philosophie du parcours et publie des vidéos qui vont rapidement inspirer d'autres adeptes de la discipline. Dans les années 2000, c'est l'explosion médiatique du parcours. Sébastien Foucan intègre le terme de free running, un terme qu'il choisit anglophone pour répondre à son envie d'internationaliser leur discipline. Les termes de parcours et de free running sont au début utilisés indifféremment, mais très vite les termes dégagent chacun une spécialité bien ancrée, le parcours est une discipline qui se veut utilitaire, alors que le free running se veut plus esthétique. Si le parcours est représenté par David Bell, le grand nom du free run est celui de Simon Noguera, un jeune homme de 22 ans qui consacre sa vie à cette passion. Il découvre les Yamakasi à l'âge de 5 ans grâce à un reportage télé et reste littéralement scotché devant de telles performances. Son but est, je le cite, « de vivre dans un monde où tout obstacle physique sert son évolution personnelle en dehors des carcans créés par l'homme et pour l'homme. C'est une forme de prise de liberté en dehors des chemins tout tracés. Il est le dernier champion de France de freerunning en freestyle et membre de la French Freerun Family, un collectif qui réunit des Français, Suisses et Canadiens venus du monde du cirque. » Avec ses nombreuses vidéos sur Internet, sa notoriété grimpe et lui permet de se faire connaître à travers le monde et de passer tant à la télévision qu'au cinéma. Pour lui, c'est même plus qu'un sport, c'est une façon de matérialiser les obstacles qu'on rencontre dans la vie et d'apprendre à maîtriser les peurs qu'on a pour franchir ces obstacles. Parti de Paris, l'art du déplacement a su conquérir la France et est maintenant présente dans toutes les grandes villes. Et encore, je ne parle là que des associations, car la conquête de la France a pu se faire en dehors du domaine associatif, grâce à l'explosion des plateformes internet où chacun y va de sa performance vidéo. Simon Noguera profite depuis de sa notoriété pour aller à la rencontre de ses fans et leur prodiguer quelques conseils pratiques. Mieux vaut s'entraîner au sol, par exemple. Et oui, on se souvient malheureusement du jeune de 13 ans qui avait voulu jouer au Yamakasi en 2011 et qui avait fait une chute mortelle. Depuis, les messages de prévention ne se comptent plus de la part des icônes de ce sport si prisé. Simon explique d'ailleurs que certaines figures qu'il applique maintenant dans les airs lui ont valu 9 ans d'entraînement au sol. S'il y a bien quelque chose de commun à tous ces sportifs et artistes de la rue, c'est la nécessité d'une discipline hors pair et d'un entraînement rigoureux afin de transcender ce qui nous enclave. C'est d'ailleurs dans le fond quelque chose qui n'est pas nouveau, car déjà Jacques Brel nous disait « Avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent, tout le reste, c'est de la sueur, c'est de la discipline. »
Moi, j'adore à chaque fin de chronique comment Juliette, elle arrive à nous caler une petite...
C'est des heures de recherche.
Une petite chute, à chaque fois. Chute, c'est assez bon. Donc ça va, là, on a assez bien...
Ouais, bah c'est, ça ouais. Nous rappelle un petit peu les origines, quoi, c'est
ouais.
Cool.
Il n'y a pas eu trop de bêtises, non. C'est bon,
non, nickel.
Non,
c'est bon,
ça va. Non, mais je sais pas, on demande.
J'ai la moyenne.
Pas de soucis. Eh bien, merci Juliette, en tout cas, de nous avoir un peu plus éclairé sur le sujet. Donc, il est désormais temps pour nous de faire une courte pause musicale. Donc, tout de suite, on s'écoute le groupe Intemporel. Et qui restera toujours intemporel, c'est House of Pain avec leur tube international Jump Around. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Voilà, c'est ça.
et c'était Jump Around de House of Pain. Et on retrouve tout de suite donc Marion pour une autre chronique. Donc, alors, puisque Juliette vient de nous présenter l'historique du parcours et du freerun, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, entre parcours et freerunning?
Alors oui, il y a une différence. C'est-à-dire que le parcours, ça va être en gros la pratique de passer au-dessus d'un mur. C'est réussir d'aller à un point B, d'un point A à un point B, en faisant simplement des sauts pratiques, fluides. Et le freerun, ça va plus être en fait dans l'acrobatie.
D'accord.
Ça, en fait. L'esthétisme. C'est une base de parcours avec en plus de l'esthétisme, des saltos, des choses comme ça.
Ok, d'accord. Donc après avoir enlevé enfin le voile sur ce mystère, donc on retrouve enfin. Donc pour une chronique, donc ça faisait longtemps.
Bah oui.
Ça fait du bien.
Bah toujours contente de faire des chroniques.
Ouais, ça change. Donc de quoi tu vas nous parler ce soir?
Alors en fait, je vais vous parler plus de la philosophie même en fait du parcours. Mmh. Alors après. Je vais vous parler de la philosophie du parcours. Alors après, ce que j'ai recueilli, en fait, ça vient de témoignages de traceurs que j'ai trouvés sur Internet. Je ne sais pas si vous partagez les mêmes points de vue, mais en tout cas, je vais essayer d'être le plus
désolée
correct
pour les
possible.
Auditeurs, mais...
La porte s'ouvre, se ferme.
Voilà.
Du coup, de mon œil neuf, neutre et extérieur, déjà, j'ai la simple impression que rien ne les arrêtera, les traceurs, et qu'ils continueront leur parcours coûte que coûte, animés par la même foi, enchaînant les sauts, de muret en muret, rebondissant sur un poteau, prenant juste le temps de se reconcentrer pour repartir sur un toit, avant de marcher sur un mur à la verticale pour enjamber une fontaine et continuer quelques saltos arrière, les traceurs, comme ils s'appellent, évoluent dans les environnements urbains et ruraux tels des samouraïs des temps modernes, offensant ainsi la gravité, et vous avez relevé ici la petite référence cinématographique de 2001 dont on parlait tout à l'heure.
Ça fait toujours plaisir.
Au commencement, le parcours était l'art du déplacement avant d'être redéfini parcours, donc P-A-R-K-O-U-R, par Hubert Rundé, qui a tenu le rôle d'Hubert dans le film La Haine, et qui est un ami de David Bell, donc David Bell, cofondateur du parcours, et qui a tenu le rôle d'un des Yamakasi dans Yamakasi, pardon. L'art du déplacement devient donc un parcours du combattant, course d'obstacles, d'entraînement militaire, mais sans le mot combattant pour ne pas copier, et avec un K au lieu du C pour plus d'agressivité. Ça, c'est Robert Rundé qui le dit. Le S muet est supprimé, jugé en contradiction avec la philosophie d'efficacité du parcours. Bah oui, S, ça ne se prononce pas, donc on l'enlève. Au-delà de la performance physique spectaculaire, le parcours est guidé par une philosophie très forte qui transparaît à travers les gestes des traceurs. Le but de ce sport non compétitif est d'obtenir un déplacement rapide, utile et efficace pour avancer avec facilité et surtout franchir les obstacles rencontrés dans son environnement. Et pour ça, il faut aller à la recherche de son potentiel physique et mental et le développer en s'entraînant et s'entraînant, car lui seul permettra de sortir paradoxalement de tout danger mortel. Je dis paradoxalement puisque dans notre beau monde occidental, les prouesses des traceurs semblent bien être les plus dangereuses. Mais si on suit l'idée de départ, sortir de tout danger mortel, je sais pas à quoi j'ai pensé. Donc si on suit l'idée de départ, sortir de tout danger mortel sans la reprendre au mot, on peut l'élargir un peu et penser que finalement ce danger mortel, c'est les aléas de la vie, tous les éléments de l'environnement externe sur lequel on n'a pas d'emprise mais auquel on n'a pas d'autre choix que de faire face pour ne pas stagner, fuir ou reculer. Et le parcours, c'est un peu la modélisation de cet état d'esprit, toujours aller de l'avant, ne jamais s'arrêter et faire face à son environnement en s'y adaptant, avec des sauts, avec des enjambements et des saltos, en prenant des risques pour avancer, mais toujours avec une précision extrême et un entraînement intense pour finalement garder un contrôle sur son environnement qu'on ne peut pas changer, mais juste vivre. Réussir à atteindre, alors je ne suis pas adepte de ce sport, hein, mais pour moi, réussir à atteindre un mur espacé de 2 mètres en sautant dans le vide, c'est finalement prendre confiance en soi pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est grandir, c'est prendre conscience de ses limites, et ça ce sont des traceurs qui le disent, pour s'entraîner encore et devenir plus fort, c'est aussi se relever quand on n'a pas pu atteindre ce mur du premier coup et ne pas abandonner. C'est donc finalement apprendre à se maîtriser soi en maîtrisant l'extérieur, mais surtout c'est s'ouvrir aux autres, aux groupes, et aux familles de traceurs puisqu'elles existent. C'est respecter les autres et ne pas se montrer supérieur ou les rabaisser parce qu'on maîtrise, car la maîtrise, ne l'oublions pas, est un travail permanent. Alors pour certains, penser ces grands principes de but, d'objectif, de contrôle de soi reste de grandes paroles, mais moi ce que je retiens du parcours, Je vais arriver à tourner ma page. C'est justement la preuve vivante de cette détermination sans faille, illustrée sans détour ni gants. C'est tous ces mots et ces paroles vécues sans que l'action ne les écrase pour autant. C'est vivre le courage, c'est faire bien, faire bien, faire vite, être fort pour être utile, être et durer. Et là, vous avez peut-être reconnu du coup la devise en fait du parcours de David Bell. Voilà.
Bah, merci Marion, en tout cas, pour cette courte chronique sur la philosophie, enfin la façon dont on peut voir le parcours. Et donc, comme on l'a entendu, le parcours réside dans le franchissement d'obstacles par plusieurs mouvements de base qui peuvent ensuite se décliner, tels que des sauts de précision, la roulade, la course, et j'en passe, et où l'équilibre est toujours primordial dans cet exercice, en tout cas quand on n'est plus au sol. Donc, technique créée par David Bell, comme on l'a dit, inspirée par son paternel Raymond, elle a été popularisée en France à partir de 2001 avec le film réalisé par Julien Seri, puis repris par Ariel Zetoun, Yamakasi. Hein, j'ai l'impression que vous portez beaucoup dans votre cœur ce film.
Voilà, c'est pas qu'il est mauvais, c'est simplement que... C'est certains a priori qui sont faits à cause de ce film et qui sont pas forcément les bons.
D'accord, mais de toute façon, on va y revenir après parce que j'ai l'impression que ouais, beaucoup de personnes peuvent se tromper sur le vrai du faux, en tout cas en prenant ce film comme exemple pour le parcours.
Puis du coup, j'ai l'impression qu'il devient aussi un peu un cliché en fait du coup.
C'est ça, en fait, on dirait que tout est simple, tout se fait facilement. En fait, c'est pas vraiment comme ça, ça peut être dangereux de penser comme ça.
Puis après, on peut penser aussi, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on saute de temps en temps en fait, mais c'est surtout dans la rue, dans la vie de tous les jours, en fait, sur les murs, les descentes d'escalier, qu'on fait ça.
Ça peut être autant à 10 cm que finalement à plusieurs mètres de hauteur. C'est vraiment
okay.
Sur toutes les surfaces.
Et ben, donc, comme on peut le voir, juste après ce film, il y a eu une grosse hype en fait, qui a animé le mouvement. Donc tout le monde trouve ça super classe et beaucoup de gens veulent s'y mettre alors. Et alors là, à partir de ce moment, tout le monde va avoir un traceur dans son film. Donc 3 ans après Yamakasi, il sortira Banlieue 13, donc de Pierre Morel, le papa de Tekken, qui connaîtra un succès plus mesuré, toujours avec David Bell, qui est le héros de ce film. Donc un policier sans vergogne qui fait des acrobaties dans une banlieue pour désamorcer une bombe. Tout un programme. Donc au Royaume-Uni, ce sera Jump London puis Jump Britain en 2003 et en 2005. Et là, le sommet de tous, la consécration, c'est la sortie en 2006 de Casino Royale avec une scène de parcours qui a marqué beaucoup d'esprits alors à l'époque. Et cette fois-ci, c'est Sébastien Foucan, donc cofondateur du parcours avec David Bell, qui s'est retrouvé dans le rôle du méchant dans cette scène. Mais le parcours n'a pas trouvé une représentation seulement dans les films. La licence Assassin's Creed, comme on l'a dit tout à l'heure, a fait d'ailleurs une pause cette année pour sa licence, en a fait sa marque de fabrique pour le gameplay de son jeu, ce qui a laissé libre cours à l'imagination de beaucoup de joueurs, puisque beaucoup de vidéos de parcours sont sorties après en réutilisant les codes du jeu, la musique ou tout simplement les vêtements qu'on peut voir. Et je me demandais, sur internet, en film, en musique, en jeu vidéo, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette hype qui tourne autour de ce mouvement ? Est-ce que ça incite beaucoup de personnes dans le bon sens à vouloir connaître votre passion, ou justement ça incite plutôt à la décrédibiliser en le rendant un peu cliché, notamment avec le film Yamakasi comme vous en parliez tout à l'heure?
Je le vois pas comme une manière de le rendre cliché, peut-être pas, simplement oui, le fait que ce soit une hype, ça peut avoir ses bons points comme les mauvais points. Globalement en fait, une personne peut avoir envie de s'y mettre, ce qui est une bonne chose. Parce que c'est, enfin voilà, pour nous qui sommes pratiquants, c'est une chose qui est bien à faire, on apprécie de le faire et on trouve ça bien que des gens s'y mettent.
Ouais.
Mais il faut le faire de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, prendre quelques précautions. Et c'est là qu'il peut y avoir des risques. Si quelqu'un voit par exemple dans un jeu un personnage qui fait ça, ou dans un film quelqu'un qui le fait et qui trouve ça vraiment super, il va vouloir s'y mettre sans faire suffisamment attention, et c'est là que peut arriver par exemple un accident.
Oui, en fait, c'est dangereux, par exemple, de s'y mettre tout seul et de croire que c'est facile et justement, on va s'entraîner.
Ouais, exactement.
Ouais, ou de faire mal les mouvements aussi, par exemple. Je pense que c'est bien d'avoir l'envie, en fait. Après, ce qu'il faut, c'est être avec les gens qui nous encadrent, qui...
Et vous est venu d'où votre envie, justement? C'est par ces genres de vidéo ou pas du tout? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce...
Comment j'ai connu ça? Je pense que j'ai vu ça la première fois, oui, à travers des films, surtout. L'envie simplement de voir des personnes comme ça qui bougent, qui arrivent à bouger d'une manière différente de la normale, qui la fluidité, l'efficacité aussi. Je pense que c'est quelque chose qui donne vraiment envie en fait de pratiquer. Mais voilà, le plus important, je pense, c'est surtout en fait de commencer avec quelqu'un, si possible, qui connaisse un minimum la pratique, pour voilà, apprendre à respecter les, enfin, à faire les bons mouvements pour éviter de se faire mal, surtout en fait.
Ok, eh bien, c'est donc après une brève présentation du sujet par nos chroniqueuses et par nos invités que la première partie de notre émission s'achève. Donc, il est donc temps de faire une pause musicale. Et tout de suite, c'est Eibo de Dylan.
Interracial crystal, postulate, oh no. The postulate, oh no. She's a digital crystal ball. She towers your crystal, postulate, oh no. The postulate, oh no. She's a digital crystal ball. Interracial crystal, the postulate, oh no. The postulate, oh no. She's a digital crystal ball. Interracial crystal, the postulate, oh no. The postulate, oh no. She's a digital crystal ball. Interracial crystal, the postulate, oh no. The postulate, oh no. She's a digital crystal ball. Interracial crystal, the postulate, oh no. The postulate, oh no. She's a digital crystal ball. Interracial crystal, the postulate, oh no. The postulate, oh no. She's a digital crystal ball. She towers your crystal, postulate, oh no. The postulate, oh no. Thank you.
Et c'était Abo de Dylan. Et on retrouve du coup en deuxième partie d'émission nos trois invités, à savoir Kylian, Aolis et Bastien. Donc rebonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Rebonsoir. Donc on va commencer tout de suite par le plus logique. Je vais vous demander de vous présenter. En fait, on vous a connu par le groupe Facebook Parcours 37, donc sur lequel en fait il y a des lieux d'entraînement, etc., des spots. On en parlait tout à l'heure en antenne. Comment est-ce que vous présenteriez en fait le groupe? Et puis aussi, il me semble qu'il y a une association. Comment est-ce que vous la présenteriez?
Alors en fait, voilà, nous on fait partie d'un côté d'une association qui s'appelle Gravité Zéro. On est une petite partie de traceurs à en faire partie. Et sinon, à côté de cette association-là, il y a le groupe Parcours 37 sur Facebook qui nous permet simplement de communiquer entre nous en fait. Par exemple, si on veut organiser une session, donc une après-midi où on va faire du parcours, on se dit de 14h à 9h par exemple, on se rejoint à cet endroit-là et on passe toute l'après-midi sur ce lieu-là. Donc voilà, en fait, le groupe Parcours 37 sur Facebook va simplement nous permettre de nous contacter et d'organiser des sessions.
D'accord. Et du coup, on parlait tout à l'heure de l'association qui est Gravity Zero.
Gravité.
Désolé, le film.
Pas de souci.
là, c'est plus structuré. Enfin, c'est plus structuré en fait. On peut s'inscrire. Il y a des cours. Ça se passe comment?
En fait, ouais, du coup, le groupe Parcours 37, lui, il a un accès libre. Donc, suffit de contacter la page Parcours 37. Donc, mm-hmm. on peut l'avoir directement sur Facebook. Et puis après, on peut rejoindre le groupe. L'association Gravité Zéro, c'est l'inscription comme une licence de sport, quoi. Et bah, on s'entraîne en fait tous les dimanches. Il y a une salle de gym en fait à laquelle on va, à la Vallée Violette.
À jouer les tours.
Ah, la Vallée Violette, c'est à côté de chez toi, à Delhi, c'est à côté de chez moi.
C'est ça. Et bah ouais, on s'entraîne en salle, donc en milieu un peu plus sûr, quoi, à faire nos saltos, tout ça.
Donc dans un milieu vraiment safe en fait, quoi. Pas en dehors, pas sur du béton,
ça,
avec des tapis. Vraiment, d'accord, ok.
C'est ça, il y a différents niveaux aussi de pratique.
D'accord.
Donc, il va y avoir vraiment les débutants, ensuite les intermédiaires, les un peu plus avancés en fait.
Et 14 à 16, après 16 à, je sais plus, 17-30, puis après 17-30 à 19h, il y a
les plus grands.
Les plus grands,
quoi.
Okay.
Et comment on voit qu'une personne peut passer d'un groupe à un autre, par exemple, c'est quoi en fait? Va y avoir une compétition? Va y avoir.
Il n'y a pas de compétition en fait, c'est. En gros, là, par exemple, cette année, quand la salle a ouvert, on a fait essayer à certaines personnes quelques sauts, en fonction de la manière avec laquelle il fait le saut, s'il y arrive bien, s'il arrive bien en fait à comprendre comment faire le saut. Mm-hmm. Donc voilà, en fait, en fonction de la maîtrise de la personne en question, on va réussir à voir s'il vaut mieux, s'il débute tout juste, qu'il arrive encore à pas faire grand-chose. Dans ce cas-là, il va peut-être plutôt aller dans les débutants. Mm-hmm. Si on voit qu'il maîtrise déjà certains mouvements, il va plutôt aller dans l'intermédiaire. Et
après,
à partir du moment, voilà. Il y a aussi une question d'âge, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a peut-être 13 ans, on va pas, même s'il a un bon niveau, je ne sais pas si on va forcément directement le mettre dans les avancées.
D'accord.
Il vaut peut-être mieux le faire passer par l'étape intermédiaire.
Et il y a environ combien de personnes en fait qui sont à cette salle comme ça tous les jours? Beaucoup?
Peut-être 40 inscrits.
C'est une bonne question.
Je crois qu'il y a, quoi, il y a peut-être 40 inscrits à peu près, non?
Ah ouais, quand même. Et il y a combien de profs pour il y en a un seul?
Alors,
ou...
Pour l'instant, il y en a qu'un seul. Ouais, c'est Charles, donc c'est Charles Brunet.
Ok.
C'est la référence en fait à Tours, c'est le meilleur. Ça fait 10 ans que ça entraîne, donc forcément il a.
Oui, il a acquis un petit niveau, quoi.
Oui,
de la pratique.
C'est ça, il a pas mal de pratique. Et puis là, bah, il est en train de passer un. BPGEPS, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Pour l'année prochaine, bah, pour enseigner, rémunéré ou non, je sais pas. Enfin, pour être plus à même de nous enseigner comment nous entraîner.
Si, c'est ça, vraiment, il va se consacrer vraiment à l'association et ça va prendre une plus grande ampleur normalement. Enfin,
d'après c'est
ce qu'il m'a dit.
D'accord. Et comment vous trois, en fait, vous avez rejoint l'association plus que le groupe, en fait, parce que le groupe c'est Facebook, vous vous inscrivez, c'est marre. Comment est-ce que vous avez connu cette association par du bouche à oreille et puis qu'est-ce qui vous a donné aussi envie de faire du parcours?
Bah, moi déjà, de base, j'aime bien bouger un petit peu dans tous les sens. C'est vraiment, je suis assez dynamique. Avec le parcours, j'ai vu des vidéos et je me suis dit que ce serait un bon moyen finalement de cette énergie de pouvoir la canaliser, d'en faire quelque chose. Et quand je suis arrivé à Tours, bah, du coup, pour mes études, j'ai vu qu'il y avait un groupe de parcours. J'ai envoyé un message sur le groupe pour savoir comment ça se passait. Et puis du coup, j'ai intégré le groupe Il y a une session, c'était un samedi, je crois. Et j'y suis allé, et puis j'ai vraiment compris que vraiment ça me plaisait et que je voulais continuer.
Oh, c'est cool.
Mais tu partais de zéro, c'est-à-dire que t'avais jamais fait ça de ta vie, t'arrives.
J'avais jamais vraiment fait ça de ma vie, mais après ça m'arrivait de sauter, de grimper dans les arbres, des trucs comme ça, mais des trucs qu'on peut faire, des trucs qu'on peut voir les enfants faire aussi, qui se déplacent naturellement. Mais après, enfin voilà, j'ai vraiment structuré cette énergie, ces mouvements-là, et maintenant je fais du parcours.
D'accord. Donc en fait, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Ce qui vous a donné envie de faire du parcours, c'est plus les vidéos, de voir les gens le faire, en fait, on va dire, à la télé ou sur Internet, et ensuite de reproduire.
Ça donne envie, mais ouais. Je ne sais pas vraiment si c'est reproduire. En fait, c'est vraiment de se trouver soi, de faire vraiment les choses pour soi aussi. Je ne le fais pas pour imiter un grand traceur, etc., même si c'est vrai qu'ils font des trucs assez extraordinaires. C'est vraiment ouais, parce que j'arrive à me retrouver en fait, là-dedans, dans les mouvements que je fais, dans aussi... La philosophie, parce qu'il y a aussi une partie, enfin pour moi après, je sais pas pour les autres ce que ça donne, mais vraiment une partie philosophique.
Mais tu te reconnais dans le sport, quoi.
C'est ça.
Ça marche. Ça.
Et justement, pour rebondir là-dessus, du coup, vu que ma chronique portait plus sur la philosophie du parcours, en fait, bah ça, du coup, je l'ai recueilli par rapport à des témoignages, des blogs que j'ai pu voir sur Internet, mais est-ce que vous, du coup, vous avez vraiment, enfin, vous êtes aidé vraiment de cette philosophie-là? Est-ce que pour vous, il y en a une dans le parcours?
Moi, je suis à peu près complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, globalement, voilà, il n'y a pas de compétition. On n'est pas là pour se vanter de réussir à faire quelque chose mieux que la personne qui est en face de nous. Au contraire, on va plutôt être là pour essayer de l'aider, de s'entraider. Par exemple, on fait une session un après-midi. Moi, je vais avoir, par exemple, un meilleur niveau qu'une autre personne, mais un moins bon niveau que quelqu'un d'autre. Et eh bien, si j'ai envie de donner des conseils à quelqu'un que je vois faire quelque chose, risquer de se faire mal par exemple, il fait un saut, il retombe de la mauvaise façon, il n'a pas la bonne réception, ben, je vais essayer d'aller lui donner des conseils pour éviter justement de se faire mal. Et de la même façon, même moi si je donne des conseils à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je sais tout faire, et au-dessus il y a d'autres personnes qui sont aussi capables de me donner des conseils. Donc c'est là aussi que va résider un peu la philosophie, c'est une entraide constante.
On apprend de tout le monde en fait.
Et ouais, c'est ça.
Après, c'est vrai que après au niveau de la philosophie, il y a quand même deux grandes devises qui sont être et durer et être fort pour être utile, qui ont été énoncées par David Bell, je crois. Enfin, c'est lui qui en parle tout le temps. Il y en a une avec laquelle je suis vraiment d'accord, c'est être et durer, c'est pas se faire mal quoi en fait, tout simplement, c'est ça que ça veut dire. C'est voilà, pouvoir faire sa pratique pendant 20 ans si on a envie, pendant autant qu'on veut. Être fort pour être utile, j'ai un peu plus de mal à comprendre en fait vraiment ce que ça veut dire, parce que en fin de compte le parcours c'est pas non plus utile dans la vie de tous les jours, enfin ça permet d'être en forme physiquement tout ça, mais je pense pas qu'un jour on pourra servir du parcours pour s'échapper d'un incendie ou d'un kidnappeur.
Je me demande si ce truc là, enfin d'après ce que j'avais vu, vient pas justement alors du père donc de David Bell qui avait donc intégré les pompiers et qui avait été vraiment remarqué dans ses sauvetages, parce que pendant que machin ramène l'échelle, bah lui, il était en train de grimper et d'aller beaucoup plus vite, et du coup, ça avait été repéré. Donc je pense que peut-être, hein, je fais une hypothèse, mais c'est peut-être ce côté-là, ce côté utilitaire. C'est...
En fait, moi, je voyais plus ça dans le sens où on pouvait l'appliquer, comment dire, mentalement. Enfin, je veux dire, je sais pas pour vous, mais enfin, quand on arrive à passer... Enfin, comment dire, à faire des prouesses physiques en fait. Enfin, je sais pas, dans la vie de tous les jours, je sais pas, on doit se dire peut-être que bah là on va y arriver parce qu'on est capable de faire certaines choses. Donc du coup, on peut l'appliquer, je sais pas, dans la vie de tous les jours. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est la philosophie aussi. C'est après, si on arrive à passer des obstacles qui sont physiques, qui sont plus simples en fait à passer que les obstacles mentaux, je sais pas, sur un examen ou quoi. En fin de compte, ça aide pas mal ouais, dans tous les problèmes de la vie quotidienne. C'est vrai que moi je le sens en fait depuis 4 ans maintenant que je fais le parcours. Je pense que ça m'aide un petit peu.
Ouais. Ça donne de la confiance, en fait. Parce que, enfin, faut aussi travailler mentalement quand on fait du parcours. C'est pas que physique, en fait. C'est vraiment, faut aussi se connaître soi, savoir ce qu'on peut faire. C'est aussi ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il y a des choses, vaut mieux ne pas les faire. On va pas se lancer, on va pas faire n'importe quoi. Physiquement, on n'est pas prêt. Mentalement, on n'est pas prêt. Donc, on va pas se lancer, on va pas faire n'importe quoi.
Mais par exemple, s'il y a un saut que tu sens pas, tu le fais pas. Enfin, tu risques pas le truc. Tu te dis pas, oh, j'y vais quand même si t'as un peu.
Non, enfin, ouais, je vais pas y aller en mode. Après, si je me sens prêt à le faire, même si je sais que je peux le rater, je vais peut-être essayer. Mais si je sens que je peux pas le faire, je le fais pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a personne qui me dira, oui, t'es pas capable, tu sais pas faire ça, etc. C'est vraiment pas la mentalité du parcours, en fait.
Oui, parce que justement, c'est non compétitif. Et il y a pas de.
De base, normalement, ça l'est pas.
C'est ça, il y a beaucoup de gens qui.
Okay.
Qui refuse la compétition en fait dans le parcours. Je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que bon, après c'est une discipline sportive comme une autre. Mais à la base, c'est pas fait pour se montrer ou c'est pour son plaisir à soi. Et c'est vrai que quand il y a des compétitions, il y a plus de chances de se blesser avec le stress de réussir, d'être le meilleur.
D'accord, donc il y a vraiment zéro compétition de parcours ou de free running. Quoi.
Ça existe.
Mais il y a des dérives du coup, parce que ça avait l'air de vous faire rire un peu. Enfin, il y en a finalement de la compétition un peu.
Il y en a un petit peu. Moi personnellement, je suis pas contre la compétition. C'est-à-dire que on peut essayer de voilà comparer ce qu'on arrive à faire avec une autre. Enfin, ce qu'on arrive à faire, ce que l'autre personne arrive à faire, voilà. Je suis pas contre le fait que quelqu'un passe par exemple sur une émission TV où vraiment ça va être de la compétition, montrer nos talents pour réussir à gagner justement quelque chose. Je suis pas contre ça. Le tout c'est de pas voilà venir se vanter de réussir à faire quelque chose. C'est ça plutôt qu'il va pas y avoir dans le parcours.
En fait, tu parlais de compétition dans le sens vraiment un truc organisé.
Un gros
quoi.
Truc. Bah, Red Bull voilà. organise ça,
voilà,
je crois.
J'imaginais bien que ça allait être Red Bull de toute manière que eux pour faire ça.
Moi, je suis plutôt contre, en fait, parce que le parcours, c'est justement pas un sport comme du tennis ou un truc comme ça, où finalement, le risque est moindre. Je veux dire, même si on se dépasse, on peut se blesser, etc. Mais au parcours, si on saute, par exemple, d'un toit pour impressionner quelqu'un, si on se blesse, c'est pas la même chose. Mm. Là, on tombe de haut et ça peut vraiment faire mal et ça peut être mortel même. C'est pour ça que la compétition, impressionner les gens, etc., moi, c'est pas un truc qui me...
Après, il faut quand même savoir ce qu'on fait et réussir à doser aussi, voir ses limites. C'est-à-dire que la compétition, par exemple, forcément dans le sens où ça va juste être pour impressionner quelqu'un et où on va se lancer sans réfléchir juste pour faire quelque chose de beau, de magnifique, d'impressionnant... C'est sûr que c'est pas quelque chose à faire parce que voilà, c'est prendre des risques inutilement. Moi, ce dont je parlais juste avant, c'est surtout la compétition vraiment organisée et où on sait ce qu'on fait sans vouloir principalement impressionner quelqu'un qui est devant nous. C'est-à-dire que si on passe dans la rue, qu'on voit qu'il y a je ne sais qui passe, qu'on se dit oh, tiens, j'aimerais bien qu'il me voit faire ça, et que là on tente un saut qu'on n'a jamais fait juste parce que oh, c'est joli, tiens, cette personne va me respecter après, c'est pas quelque chose à faire parce que voilà, c'est pas réfléchi.
Donc il y a vraiment une idée de noblesse aussi dans le sport que vous pratiquez, quoi. Quelque chose d'assez modeste. C'est le faire pour vous, mais pas pour les autres.
Ouais, c'est une chose qu'on aime bien se dire. Ça dépend des personnes, j'en connais personnellement qui sont pas tout à fait là-dedans.
Il y en a toujours,
de toute manière, n'importe
dans
où.
Dans tous les domaines.
Voilà, non, mais c'est comme ça partout.
Ça fait un peu art martial, exactement. En fait, comme... Enfin, ça rejoint, je trouve, un peu, parce que je connais plus les arts martiaux, mais ça rejoint un peu ces mentalités. C'est-à-dire qu'on le fait d'abord pour soi, après ça peut être utile, tant mieux, mais on le fait d'abord pour soi, on n'est pas là pour faire une démonstration de je ne sais quoi, de taekwondo dans la rue. C'est d'abord...
Je ne suis pas du tout un expert en arts martiaux, non, au contraire. Mais justement, il y a une sorte de lien entre les arts martiaux et le parcours. C'est-à-dire que...
Je sais que David Bay, il en parle de ça, justement, du lien entre les deux.
Au niveau de la philosophie, c'est vrai qu'il dit que... En fait, le parcours, il dit que c'est la philosophie des arts martiaux liée à, je crois, enfin, le physique, enfin, la prouesse physique des sports extrêmes. Mais enfin, après, relier le parcours à un sport extrême, ça viendrait un peu à le simplifier à une coupe. Enfin, une pratique
juste physique, physique finalement.
Moi, j'avais une petite question aussi là-dessus. Certains qui font du parcours préfèrent qu'on dise d'eux que c'est pas un sport, mais que c'est un art de la rue. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que pour vous c'est juste, entre guillemets, mais du sport, une pratique sportive, ou est-ce que vous vous considérez un peu comme des artistes de la rue quand vous sortez Non, mais c'est vrai, ça fait bizarre dit comme ça, mais quand vous sortez et que vous faites justement vos acrobaties ou quoi entre deux murs, est-ce que vous vous sentez artiste d'un coup?
Je pense que ça peut être considéré de plein de façons différentes. Autant les deux, ça dépend d'une part des points de vue, ça dépend voilà, de plein de choses. Je crois pas que ce soit considéré comme un sport. Sport au sens propre du terme. Mais voilà, c'est pour moi ça reste une pratique sportive parce que voilà, on bouge, on va sauter, on va faire du sport finalement. Le coup d'être un artiste, je vois pas ça tout à fait. C'est vrai que quand on regarde par exemple un spectacle dans la rue, ça peut être de la musique, ça peut être des acrobaties qui sont faites. En gros, c'est un peu la même chose parce que ouais, on est dans la rue. Et puis, bah, on fait des acrobaties. Donc,
ça peut devenir spectaculaire, quoi.
Ça,
mais c'est pas...
ça peut le devenir, ouais.
Puis après, c'est peut-être aussi le fait que ce soit... Enfin, personnellement, quand je fais un saut et que je sais que personne l'a fait, parce que, par exemple, c'est dans un endroit où il n'y a aucun traceur, c'est vrai que ça peut être peut-être un peu rejoint d'une pratique artistique, parce que finalement, on fait quelque chose qui a jamais été fait. Et
first.
On explore... c'est ça, en fait. Ouais. On explore ouais, la ville d'une autre manière, quoi, c'est ça.
Ok. Et je voulais savoir, parce qu'il y a une association du coup qui a joué les tours à la Vallée Violette, mais est-ce qu'il y a d'autres structures en région Tourangelle, que si on n'habite pas du coup dans l'agglomération, est-ce qu'il y a d'autres structures qui existent ou pas, ou vous savez pas, ou c'est pas grave?
Pas à ma connaissance.
J'en ai pas entendu parler non plus.
Ouais, des traceurs, il y en a un peu dans toutes les villes. Moi, je viens pas de Tours, je viens d'un peu plus loin. Je sais qu'il y a des gens à Chinon qui font un peu de parcours aussi, mais voilà, j'ai jamais entendu parler d'une autre association dans le coin Tourangeau et Chinonnais que celle que là où on est à Tours.
Après, il y a sûrement d'autres groupes dans la région. Je sais que par exemple moi j'ai quelques amis sur Château-Renaud, là où je viens de base, qui s'entraînent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de groupe ou d'association à proprement parler.
Pour l'instant, il faut viser les grandes villes, en fait.
Ouais.
Ok. Et ah oui, je voulais savoir aussi comment ça s'est passé votre premier entraînement, en fait, entre guillemets, parce que vous en parlez comme ça maintenant, ça va faire un an pour toi, Kylian,
oui,
pour
ça.
Toi c'est 3 ans, c'est ça?
Ouais, presque, ouais.
Bastien, non,
Aloïs.
Et toi, Bastien?
3 ans, 4 ans, ouais. Je sais plus, en fait. C'est...
ça s'est ça passé comment le premier entraînement, à peu près?
Très bien.
Ouais.
D'ailleurs, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que la première fois que j'y ai été, j'étais super heureux d'être là-bas, j'étais à fond, pleine forme.
Mmh.
J'étais moi justement avec Charles qui m'a montré plein de petites choses, comment faire justement. C'est là que c'est important de commencer avec quelqu'un qui s'y connaît. C'est que dès ma première session, j'étais avec quelqu'un qui était capable de vraiment me montrer quoi faire pour faire mal. Donc c'est grâce à ça, je pense, en fait, j'ai pu continuer comme ça. Et ma première session, bah, globalement, en fait, j'ai fait plein de choses que j'étais plus capable de faire après. C'est-à-dire, je pense que j'étais tellement à fond que, en fait, j'ai fait des sauts un petit peu sans y réfléchir, vu que c'était ma première fois. Et globalement, en fait, à ma deuxième session après, je suis revenu et je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ah ouais, mais ça fait peur, en fait.
Parce que t'avais la motivation, en fait, qui est passée au-dessus.
Voilà,
coup,
c'est ça. La première fois, ça faisait des mois et des mois que je cherchais, en fait, que je cherchais un groupe, que je cherchais quelqu'un pour en faire. Et bah, le jour où j'ai pu venir, j'étais trop content et je me suis pas fait mal. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. J'ai eu des personnes qui étaient autour de moi aussi pour me montrer justement comment faire. Mais c'est là, je pense aussi, ouais, qu'il faut faire attention. C'est que la première fois, souvent, on est peut-être un peu trop... On a trop envie, on fait pas suffisamment attention. Et ça peut devenir dangereux.
D'accord. Et à part le conseil, justement, de faire un peu plus attention et pas de faire des trucs de ouf dès le début, est-ce que vous auriez un petit conseil pour des gens qui voudraient s'y mettre au parcours et qui connaissent
oui.
pas grand-chose?
Petit à petit.
Petit à petit.
Ça revient souvent, quand même.
Bah, ramener une bouteille d'eau, des baskets, c'est l'essentiel.
Aussi, la bouteille d'eau, c'est très important.
Un dernier truc, ne pas oublier l'échauffement. Parce que moi, ma première session, j'ai eu des courbatures, des grosses bonnes courbatures pendant 3 jours. J'arrivais à...
C'est 3 jours, c'est
3
tout
3 jours.
Ah, moi, ça a duré au moins une semaine. Non, voilà. Enfin, vraiment, le conseil le plus important, à mon sens, c'est vraiment de commencer petit et agrandir les sauts au fur et à mesure. Parce que au début, on ne sait pas ce qu'on est capable de sauter. Donc il va falloir commencer, même si on a l'impression qu'on peut sauter, par exemple, nous on compte en pieds, on compte pas en mètres.
D'accord.
Si on a l'impression qu'on peut sauter, par exemple, 8 pieds, et ben il va falloir commencer à 5.
Même si ça paraît ridicule.
Même si ça paraît ridicule.
Enfin, faut vraiment le faire.
Donc voilà, c'est ça, on commence à 5 et si on voit que c'est vraiment beaucoup trop facile, ben on augmente, on passe à 6 pieds directement.
D'accord.
Et au fur et à mesure, on augmente, on voit qu'on arrive à notre limite. On stagne à cette limite, on s'entraîne, on répète le saut, le même saut, plein de fois, jusqu'à ce qu'on y arrive parfaitement. Et à partir du moment où on contrôle parfaitement ce saut-là, et bien on peut passer à la suite, à un saut plus grand.
Ok, et une dernière question, du coup, pour finir. Comment ça s'opère, en fait, la transition de la salle jusqu'à en dehors, en fait? Est-ce qu'il y a des protections ou des choses comme ça? Genre, par exemple, des genouillères, j'en sais rien.
Je pense ici qu'on a tous fait dans le sens inverse, en fait.
Ouais.
D'accord.
On a tous commencé dehors. Et on a continué dans la salle.
La salle, je la connais pas beaucoup. Enfin, j'ai surtout pratiqué dehors. Mais c'est vrai qu'on atteint directement les vrais trucs. Mais la salle, c'est franchement, c'est pas mal. Hein.
Ok. Et Marion,
il peut que tu le saches.
Mais du coup, quand vous parliez de distance de pied, etc., j'ai eu une question qui m'est venue. Comment vous arrivez du coup à doser en fait la bonne distance, pas sauter trop loin, pas sauter trop près?
Alors ça vient avec l'entraînement, enfin, après on le sent, même maintenant en fait, il y en a pas mal qui pensent, qui disent, enfin, dans la pratique du parcours, qu'il faut pas compter en fait, parce que à la base c'est une pratique qui est instinctive, c'est le retour au mouvement sauvage, aux origines. et du coup en fait, le problème de compter en fait, c'est que ça enlève l'instinct du saut, de savoir, de se connaître en fait. Donc moi je compte de moins en moins, mais c'est vrai que...
Globalement en fait, c'est avec l'expérience on arrive à visualiser le saut. C'est-à-dire qu'on arrive, au tout début on va pas savoir, mais une fois qu'on a fait plein de fois un saut par exemple de 8 pieds, rien qu'à l'œil on va réussir à voir que ça fait à peu près 7-8 pieds. Comme on arrive maintenant à peu près à voir que ça fait 1 mètre, 1,50 mètre. C'est juste une mesure différente, mais voilà, on arrive à le voir à l'œil à force.
On est plus observateur, enfin à force, même que ce soit pour les sauts ou même pour la ville en général, on la regarde pas pareil après.
Par exemple moi à chaque fois que je sois en voiture ou à pied, ou dans le tram ou n'importe quoi, dès que je passe quelque part, je regarde autour de moi et en me disant tiens, peut-être qu'il y a un spot qui traîne par là, et je regarde partout.
On est obligé de regarder notre environnement.
C'est ça. Et que ce soit par terre, sur les toits, derrière un mur, ou voilà, on regarde partout. Et...
On a toujours la tête levée quand on se bat dans la rue, de toute façon, on se reconnaît comme ça.
Et du coup, juste après, j'arrête, promis. peut-être la question qui fâche, vous avez déjà chuté, vous avez déjà eu des blessures graves, vous?
Non. Alors justement, ça va dépendre. Enfin voilà, un a priori qu'il y a sur le parcours, c'est que c'est très dangereux, que c'est facile de se blesser et que voilà. En 3 ans de pratique, je me suis jamais blessé. Je me suis fait des égratignures, je me suis cogné un jour le genou, j'ai eu mal pendant un jour et puis c'est passé quoi. C'est-à-dire que, enfin, après, dès le moment qu'on fait attention à ce qu'on fait, qu'on arrive à voir nos limites, il n'y a pas plus de risque qu'un autre sport.
Okay.
Après, ça peut toujours arriver.
C'est vrai qu'on a souvent l'image de la personne qui peut tomber de son toit et qui meurt d'un coup, mais en fin de compte, ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est ouais, des égratignures, peut-être des petites blessures aux articulations, mais en fin de compte, rien de...
Je crois qu'il n'y a pas une seule session... où je suis revenu sans égratignure en fait. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est en contact direct avec les murs, forcément on se fait des petites blessures, mais c'est rien du tout.
Ok.
Bon. Moi j'ai quand même eu les tibias. J'ai quand même eu les tibias, genre j'ai pris un petit peu, seulement c'était pas vraiment un saut, j'ai juste voulu passer quelque part, c'était pendant une session, c'était bête. c'était pas du parcours en soi, et voilà.
Mais c'était pas cassé, hein, c'était juste.
Non, c'était juste.
Un coup de mur sur la tibia avec le sang qui coule. Mais...
Rien à voir avec.
Bah, merci d'avoir livré cette épopée en tout cas. Merci à vous trois en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, puis d'être venus aussi.
Merci
à vous.
Et puis juste avant de se retrouver pour la conclusion de l'émission, on s'écoute un morceau du fameux Club Sandwich. Parce que ça faisait longtemps et j'aime bien. Donc ce sera Valchoche.
Je me devais de faire une introduction à ce titre particulier. Les gros bâtards que nous sommes, Grumps, DC's, Son of Kick et Simbad, sommes partis sur un trip, pas un ego trip, mais un cheval trip. Nous étions à Londres ce soir-là, prêts à enregistrer, et, malheureusement, une fille aux allures chevalines était dans le studio. Évidemment, elle ne parlait qu'anglais, car nous étions à Londres, mais je l'ai déjà signifié auparavant. Nous sommes donc partis sur un trip sur elle. En voici le résultat.
Y'a un valcheux dans le studio, de quoi neutraliser toute ma libido. Elle est tellement que c'est l'inverse d'un bubadome. Même pas un peu bonne merde, d'un petit bonhomme.
Aussi incompréhensible qu'un baki qui vend le synthé. Il faut l'admettre, c'est Jack qui prend de raté. C'est Alien, Mulder, Scully en call girl, Jolly Jumper, Bugs Bunny.
Elle a pas des chicots, non, elle a des quenottes. Elle a pas des doigts, mais elle a des quenelles. Je suis sûr que c'est Sveken, pour elle c'est Noël. Si tu lui dis t'es bonne, pour elle c'est un poème.
Il est fâcheux, ce valcheux, il a des tâcheux, c'est fâcheux. Et quand il sourit, je crache. D'ici, je suis grave. Mat, elle a de la bave, je crois qu'elle veut que tu la tapes. Et à la maison, j'ai le charolais qui cuit. C'est un mauvais mélange, mayonnaise, litchi. Quand elle chante, c'est une japonaise qui jouit. Mais c'est la fille cachée de Lionel Richie.
Valcheux, valcheux, tagada, jolly jumper. Valcheux, valcheux.
Valche, valche, tagada, jolly jumper. Valche, valche. Elle a des paquebots en guise de yep. C'est James Cameron qui a designé sa tête. Sa coupe de vœux, c'est Pandora. Dans son bagel pour mettre la mort au rat.
T'es mal à crevette, imagine comme c'est dur en levrette. Où va la queue, mec, je veux pas savoir. En plus, mon genre, c'est les peurettes. Ces jeux sont bizarres, j'ai cru que c'était deux têtes. Deux têtes.
Elle a le corps d'une sardine. On dirait que sur ses dents, y'a de la margarine. Des grosses narines, taille mandarine. Fallait me prévenir les mal avant que j'arrive.
Me faire la bise, terrible action. Putain, le studio, c'est le centre d'équitation. Elle a des sabots, elle marche en lévitation. Et vu ses cheveux, elle a besoin d'épilation.
Elle est trop chémo, un genre d'hybride canasson chameau. Une version blackos d'Arlette Chabot. J'suis comme Souchon, allons maman, pas beau.
Non mais ici, je dis ça parce que j'crois qu'elle a pas de cheveux. Une chose est sûre, elle est pas cheveux. Mika Miki trip, elle la tient par la queue.
Je la tiens par la queue, je la tiens par les pattes. Le sac plastique, je lui mets dans la...
Valche, valche, tagada, jolly jumper. Valche, valche. Valche, valche, tagada, jolly jumper. Valche, valche.
Je suis un peintre sonore. Je m'appelle Salvatore Dali.
Valche, valche, tagada, jolly jumper. Valche, valche. Valche, valche, tagada, jolly jumper. Valche, valche.
Eh bien, encore merci à nos invités d'être venus ce soir. Donc, Aloïs, Bastien et Kylian, cette fois-ci, je ne me tromperai pas. Voilà. Et puis, merci aussi à nos deux chroniqueuses d'être venues et de nous avoir fait une petite chronique pour l'occasion.
Et de rien.
Et puis, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un sujet, on ne sait pas encore d'ailleurs, hein, parce qu'on n'en a toujours pas discuté, donc ce sera la surprise.
Ce sera la surprise.
Voilà, hein, ce serait bien qu'on s'y mette. On vous souhaite tous une très bonne soirée et à très bientôt sur les autres de Radio Campus. Salut à tous.
Salut,
salut. Merci. Et puis n'hésitez pas à faire un petit parcours avec nous. Voilà. Et puis...
Petit message de dernière
minute. Parcours 37 sur Facebook.
Voilà.